Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
These videos posted to Facebook seem to show Chris Watts as a devoted father.
I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here.
Prosecutors say they believe Shanann and the girls were killed inside this house, but other details of the crime are hidden in sealed court documents. But we hope to get a lot more detail on Monday when charges are filed and those documents become public.
Now to a story we've been following since it first broke, plea deal. In a stunning reversal, Colorado dad killer Christopher Watts pleaded guilty to murdering his pregnant wife and their two children after striking a deal with prosecutors.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale faits divers et cinéma. Et on va se concentrer tout d'abord sur une affaire qui est l'affaire Chris Watts, qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Dadino, l'affaire Chris Watts, un ouvrage disponible aux éditions Lithos, un ouvrage dont nous allons nous entretenir avec son autrice, Esther Hervy. Nous aborderons également The Chris Watts Story, qui a aussi comme titre original Chris Watts Confession of a Killer, un film de 2020, enfin plus exactement un téléfilm, signé Michael Nankin, qui donc se consacre à la figure de Chris Watts, mais qui n'est pas, je tiens à le préciser, puisque sur certaines plateformes en VOD, il y a des documentaires sur Chris Watts, là, qui est une œuvre de fiction, même si elle prend des atours parfois proches du documentaire, mais on en reparlera tout à l'heure. Nous allons également aborder La tendresse des loups de Uli Lommel, un film de 73 qui est sorti chez Carlotta Film et qui s'inspire de la véritable histoire du boucher de Hanovre, tueur en série qui défraya la chronique allemande au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et enfin, nous causerons du film Wolfkrieg de Greg McLean. Là, c'est disponible chez ESC Éditions. Alors, c'est un film de 2005. L'équipe de Culture Prohibée tenait à remercier Sylvana Bergonzi, Lucie Mautier et Timothée Tricard pour leur aide sur cette émission.
Afraid.
Dans ce studio, il y a donc Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien, et bien évidemment, bonjour à toutes.
Cette introduction, Thomas, dans une émission où on parle beaucoup de tueurs en série, peut prêter à confusion, je l'avoue. Néanmoins, je vais quand même te passer la parole pour que tu nous parles d'une affaire, l'affaire Chris Watts.
L'affaire Chris Watts, dont s'est emparée Esther Hervey, l'écrivaine qui relate avec précision les derniers jours de Shannon Watts et de ses filles de 3 et 4 ans, Bella et Céleste. En effet, Chris Watts déclare que sa femme et ses deux filles ont disparu. Donc, il lance des appels à retrouver sa femme et ses deux filles. Et il est à la télévision, il fait le père inquiet, mais bon, pas tant que ça, vu qu'il n'est pas larmoyant. Il fait le père inquiet et puis... quelques jours plus tard, le corps de la jeune femme est retrouvé enterré sur un site pétrolier, tandis que les deux fillettes, mortes étouffées, ont été jetées dans les cuves remplies d'hydrocarbures. C'est déjà bien sordide. En 2018, l'affaire Chris Watts secoue les États-Unis lorsqu'elles apprennent que le mari modèle et papa aimant, qui avait réclamé le retour de sa famille devant les caméras de télévision, est en réalité l'auteur de ce crime infâme. Esther Hervey, romancière et journaliste, après avoir écrit poèmes et nouvelles et romans fantastiques, s'est spécialisée dans le true crime. Pour narrer ce sordide fait divers, elle opte pour une narration non linéaire, avec flashback et flash-forward qui accentuent la complexité des relations entre les différents acteurs du drame. Tout en ménageant un certain suspense, elle dresse un portrait d'un certain American way of life, le vernis de la famille américaine, heureuse avec une bonne situation, une grande maison... Pour déconstruire ce mythe, Esther Hervey met l'accent sur l'utilisation que font les protagonistes du drame, des réseaux sociaux sur lesquels ils mettent en avant à quel point leur vie est merveilleuse. De ce fait, en plus d'essayer de comprendre les motivations d'un homme présenté comme un mari et un père modèle, Dadino, l'affaire Chris Watts, s'avère très contemporain dans sa description d'un monde où l'image domine, où les nouvelles technologies tracent, pour le meilleur et pour le pire, chaque individu. Cela se lit comme un polar, mais Esther Hervey trouve le ton juste, évite les afféteries afin de ne pas tomber dans l'abjection. Surtout, Dadino, l'affaire Chris Watts, démontre que personne n'est à l'abri d'un dérapage et peut passer dans l'indicible. Commettre l'irréparable, car Chris Watts n'a pas été reconnu psychopathe par les experts psychiatriques. Pour savoir ce qu'il a décidé de tuer sauvagement sa famille, plongez-vous dans le livre d'Esther Hervey. Dadino, l'affaire Chris Watts d'Esther Hervey est paru aux éditions Lithos.
Justement, nous avons pu, mon cher Thomas, tous deux échanger avec Esther Hervey au sujet donc de cet ouvrage. Je précise à nos auditrices et auditeurs de Culture Prohibée que le son de la liaison téléphonique est un tout petit peu parasité. Par des petits bruits, mais enfin, ça ne vous empêchera pas de pouvoir écouter les propos passionnants d'Esther Hervey. Donc Esther Hervey de suite au micro de Culture Prohibée.
Money. J'ai démarré la lecture des romans de Stephen King à l'âge de 12 ou 13 ans. Un petit peu par hasard, c'est ma maman qui était une très grande lectrice et qui avait toute une collection de Stephen King dans sa bibliothèque. Et quand j'étais un petit peu trop jeune pour le lire, je suis allée en catimini prendre Cujo, que j'ai adoré. Et de là est partie ma passion en fait, pour Stephen King. Et ensuite, pour tout ce qui était... littérature d'épouvante ou littérature fantastique. Et au-delà de la littérature, ensuite, ça m'a amené à m'intéresser un petit peu plus à la psychologie criminelle, effectivement, mais plus dans un deuxième temps, vraiment, à des études de psychologie qui sont arrivées beaucoup plus tard dans mon parcours.
Justement, quand avez-vous commencé à écrire ? Quel a été le déclic qui vous a amené à écrire ?
Depuis toute petite, depuis que je sais lire, j'avais toujours un bouquin à la main. Et quand j'ai eu à peu près une dizaine d'années, je me suis mise un petit peu à griffonner des poèmes comme ça. Et puis après, bah, quand j'ai lu justement Stephen King, etc., deux ou trois ans plus tard, j'ai eu envie de l'imiter et j'ai eu envie donc d'écrire des nouvelles. J'ai écrit pas mal de nouvelles fantastiques et d'horreur. Après, je me suis mise au roman vers l'âge de 18-20 ans. Et puis après, beaucoup plus tard, j'ai un petit peu couplé ma passion avec la psychologie criminelle et le true crime un petit peu plus tard, puisque j'ai commencé vraiment à écrire du true crime en 2019. Donc c'est venu bien plus tard.
Alors justement, Esther Hervy, comment vous êtes passée de l'écriture de romans fantastiques à l'écriture sur les documents, de faits divers, sur le true crime ?
C'est venu un petit peu par hasard. Alors j'avais ma passion pour la psychologie criminelle et ma passion pour le true crime d'un côté. Et j'avais en parallèle ma passion de l'écriture où j'écrivais plutôt... alors j'ai écrit des nouvelles fantastiques et ensuite je suis un petit peu passée au roman. Plutôt, c'était plutôt des tranches de vie. Et je m'inspirais un petit peu de ma vie personnelle. Donc ça n'avait rien à voir avec l'épouvante, heureusement. Et ensuite, j'ai vu un documentaire sur une disparition. Donc, c'était Elisa Lam, c'est une jeune femme qui avait disparu à Los Angeles en 2013, si ma mémoire est bonne, dans un hôtel, le Cecil Hotel, qui a une réputation vraiment très sulfureuse, qui a une réputation un peu d'être un hôtel hanté. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup raconter son histoire, parce que ça m'avait vraiment interpellée. Donc j'ai écrit mon tout premier livre de True Crime en 2019 sur des disparitions. Donc dans le bouquin, on parle d'Elisa Lam, mais on parle aussi d'autres disparitions. Et c'est mon tout premier livre, donc en 2019, qui est sorti après avoir vu ce documentaire sur cette jeune femme qui avait disparu de façon mystérieuse à Los Angeles.
Quand vous avez fait vos études de psychologie, apparemment donc vous étiez plutôt spécialisé dans la psychologie criminelle, est-ce que vous aviez déjà l'idée d'écrire sur les true crime ou c'était juste... quel était votre plan de carrière quand vous faisiez vos études ?
Pas du tout. En fait, j'avais pas vraiment de plan de carrière quand j'ai fait mes études parce que j'ai repris des études très tardivement après 30 ans. Et j'avais déjà une carrière qui n'avait rien à voir, donc je travaillais en entreprise. Mais depuis toute jeune, je me passionnais pour la psychologie et j'ai plus repris des études juste pour moi. J'avais pas vraiment de plan de carrière, c'était plutôt pour ma culture générale et parce que j'avais vraiment envie d'étudier ça pour moi. C'était ma passion vraiment, c'était ma passion propre. Mais j'avais pas réellement de plan de carrière. Alors, il se trouve que ça m'a servi ensuite pour l'écriture de True Crime, mais finalement, c'est un petit peu tout qui s'est recoupé. C'était pas vraiment prédéfini en réalité.
Vous avez écrit plusieurs livres sur des tueurs en série, des faits divers. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ces histoires, chez ces personnalités ?
C'est justement... c'est tout ce qui touche à l'incompréhensible, et c'est pour ça que je m'intéresse à leur psychologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait... qu'à un certain moment, certains êtres humains qui ont vécu des enfances, des adolescences qui ont eu un parcours de vie un petit peu chaotique, souvent doublé de troubles psychologiques, voire psychiatriques, sont passées à l'acte en réalité, alors que d'autres qui vont avoir eu le même parcours, donc qui vont avoir subi des maltraitances, qui vont avoir un trouble psy, eux par contre ne vont jamais passer à l'acte. Qu'est-ce qui fait en fait qu'un individu va basculer dans un parcours criminel alors que tant d'autres, et heureusement, restent en fait absolument inoffensifs et vont plutôt retourner, quand il y a une violence, vont plutôt retourner la violence contre eux-mêmes et pas contre les autres. Donc c'est ce mystère en fait, moi, qui me tient à cœur quand j'étudie le parcours d'un tueur en série ou d'un criminel. C'est vraiment ça en fait que je cherche à comprendre à travers les rapports psychiatriques qu'on peut lire. Par exemple, j'ai écrit un livre sur Ted Bundy, donc en lisant les rapports des psychologues, en regardant un petit peu tout son parcours d'enfance et d'adolescence. J'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui a mené ce genre de personnalité à passer à l'acte, et souvent à passer à l'acte vraiment plusieurs fois.
Ted Bundy, c'est quand même l'archétype du tueur en série qui a créé un fantasme aussi, je veux dire, vis-à-vis des tueurs en série, parce qu'il ressemblait énormément à Warren Beatty, il avait un avenir brillant. Il s'est évadé plusieurs fois. Enfin,
oui,
on peut faire des films, des séries sur lui. Enfin, fascinant.
Oui,
il est fascinant.
Son parcours, c'est vraiment un scénario de série de films, c'est sûr.
Et qu'est-ce que vous en avez retenu justement? Comment vous expliquez que ce jeune homme qui était, alors je crois que c'était Anne Rule qui avait écrit,
oui,
elle avait travaillé avec lui à un standard et elle avait été traumatisée de découvrir que c'était un tueur en série. Et qu'est-ce que vous, alors comment vous avez déchiffré un peu le mystère Ted Bundy, qui pour moi je trouve que c'est un tueur en série à part dans la mythologie des tueurs en série américains, entre guillemets quand je dis mythologie évidemment.
Alors moi ce que je... Je pense la fascination entre guillemets du public pour Ted Bundy, pour moi, c'est justement parce qu'il avait tellement tout pour réussir, et c'est une espèce d'énorme gâchis de son potentiel, puisqu'il était, il avait un physique avantageux, il était très brillant, très intelligent, mais il a jamais su avec sa personnalité, son trouble psychopathique, il a jamais su en fait mettre son intelligence au service de ses ambitions. Il avait énormément d'ambition, mais sa psychopathie l'empêchait toujours, avec ses pulsions, de réussir vraiment à s'installer dans un environnement. Il voulait être politicien, il était chez les Républicains, il voulait vraiment faire partie de l'élite. Mais toutes ses pulsions, c'est quelqu'un de très instable, puisque la psychopathie, ça rend les gens absolument très instables. On ne peut pas se concentrer vraiment sur un objectif sur le long terme. Son instabilité a toujours gâché ses ambitions. Et le fait est que je pense que la fascination pour le public de Ted Bundy, c'était l'archétype de l'homme qui avait tout pour réussir et qui, au final, à cause de sa psychopathie et de ses troubles psychologiques, a absolument tout gâché. Et il y a quelque part une espèce de déception par rapport à cet homme qui avait absolument tout pour lui et qui est devenu l'un des plus terribles tueurs en série et l'un des plus grands monstres en fait de l'histoire contemporaine américaine, tout simplement. Is it snowing? Is a
hurricane blowing? Vous écoutez Esther Hervy, autrice de Dadino, l'affaire Chris Watts, disponible aux éditions Litos, au micro de Culture Prohibée. Are the fires of hell glowing? Is the grizzly reaper mowing?
Est-ce que c'est ça qui vous a fait passer de Ted Bundy à l'affaire Chris Watts, c'est-à-dire quelqu'un qui avait tout pour lui et puis qui bascule tout d'un coup de l'autre côté?
Alors en fait, ça s'est fait dans l'autre sens. J'étais d'abord sur Chris Watts et ensuite je suis passée à Ted Bundy. Moi, à l'origine, je m'intéresse plus aux tueurs en série, donc comme Ted Bundy, John Wayne Gacy, etc. Ce qui m'a intéressée chez Chris Watts, c'est justement que lui n'avait rien de tout ça, aucune caractéristique des tueurs en série. C'est que personne n'a jamais su pourquoi il avait commis ces crimes, c'est-à-dire il avait tué sa femme enceinte et ses deux petites filles juste pour vivre un adultère. Il a toujours, lui, il a eu une enfance absolument lambda, il avait une famille bienveillante, très aimante, il a eu un parcours scolaire tout à fait typique, c'était un bon élève, il a eu ses diplômes, il était très très bien inséré dans la vie. Vous ne trouverez jamais personne dans son entourage qui dira que Chris Watts avait eu des comportements violents ou même parfois étranges. C'était le bon gars. Très gentil, qui détestait les conflits, qui était toujours là pour arrondir les angles, qui suivait tout le temps. Il n'avait pas du tout dans sa cellule familiale. D'ailleurs, c'était sa femme qui avait un rôle de leader. Lui suivait, tout lui allait. Et puis au final, il rencontre une femme. Il a un coup de foudre et au lieu de penser juste à divorcer, il préfère éliminer tout le monde. Donc ça reste un mystère total. Et c'est justement ça chez lui qui m'a intéressée parce qu'il allait vraiment à l'encontre de tous les tueurs dont j'ai l'habitude de traiter les cas.
Comment vous avez travaillé sur ce livre? Est-ce que le fait d'avoir une proximité avec les États-Unis vous a beaucoup aidé?
Alors non, pas forcément. C'est pas la proximité avec les États-Unis qui m'a beaucoup aidée. C'est plutôt que les États-Unis, en fait, contrairement à la France, moi j'ai juste fait une demande du dossier de police. Et aux États-Unis, on nous fournit les dossiers de police assez facilement. D'ailleurs, pour Ted Bundy, j'ai eu pareil les dossiers du. J'ai écrit au FBI, on m'a fourni tout ce qui était possible de me fournir. Donc en fait, pour Chris Watts et pour Ted Bundy, j'ai travaillé directement avec les dossiers de police. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de détails dans mon livre. J'ai toutes les conversations SMS, j'ai absolument tous les rapports de PV de police, les interrogatoires, etc. Et en plus, non seulement il y avait le dossier de police, mais ce cas est extrêmement documenté en sources libres sur Internet. On a toutes les vidéos des interrogatoires, on a toutes les vidéos des audiences, on a énormément de vidéos de la famille, puisque Shannon, la femme qui a été assassinée par Chris Watts, documentée énormément sur ses réseaux sociaux, toute sa vie de famille. Donc il y a des heures et des heures entières de moments de vie de cette famille Watts. Donc avec tout ça, moi j'ai pu reconstituer vraiment toute la vie personnelle familiale et du couple. Et en complément avec les dossiers de police, j'ai réussi aussi à avoir tout ce qui était un petit peu plus caché, toutes les conversations SMS, tout ce qui était vraiment plus intime et qui ne se trouvait ni sur les réseaux, ni sur les vidéos de police.
Dans ce que vous décrivez là, vous décrivez une femme qui communiquait énormément sur les réseaux sociaux. En fin de compte, ce Chris Watts, est-ce que c'est pas quelqu'un qui était un peu l'Américain idéal, qui avait construit la famille idéale? Et parce que c'est déjà arrivé ça dans les annales du crime, l'affaire Roman par exemple, pour citer une des plus célèbres, et qui en fin de compte a préféré recourir au meurtre plutôt que d'écorner cette image très forte, peut-être se paraître très fort dans nos sociétés contemporaines où on doit se plier à un certain standard, donc hétérosexualité, réussite dans les diplômes, vie professionnelle réussie, enfin puis tout team quoi.
Oui, je pense absolument qu'il y a de ça. D'ailleurs, on peut faire, je pense, après c'est mon propre avis, un parallèle avec l'affaire du pont de Ligonnès. Et lui, je crois, a assassiné aussi toute sa famille pour pas qu'il ait conscience de sa chute intrafamiliale au niveau de son avenir professionnel, etc. Puisque c'était ce que les psys disent, que c'était un loser, il ne réussissait rien. Mais ça, c'était intime en fait chez lui, mais même sa propre famille n'en avait pas conscience. Et pour Chris Watts, je pense qu'effectivement Shannon, elle documentait tellement tout sur les réseaux sociaux et c'était elle qui faisait paraître vraiment sa vie comme une vie la vie idéale de l'Américain moyen. Vous avez absolument raison. Mais quand on lit un petit peu les conversations et quand on va un petit peu plus profondément, on voit que tout n'était pas rose chez eux. Par contre, tout le monde pensait que tout allait bien dans leur couple. Alors, tout allait bien en surface dans leur couple, mais ce rôle en fait de suiveur dans la cellule familiale que Chris avait auprès de Shannon, on se rend compte que quand il rencontre sa maîtresse, il prend conscience que Shannon en fait mène un petit peu la danse dans la famille et dans la maison, que lui a pas vraiment son mot à dire. Et il va l'expliquer très brièvement lors d'une interview, c'est-à-dire que quand il a rencontré sa maîtresse Nicole, il va dire avec elle j'avais l'impression d'être moi et que je pouvais être moi. Un petit peu comme si Shannon l'étouffait un petit peu ou le faisait rester à sa place et qu'elle voulait tout contrôler. D'ailleurs, dans mon livre, je le dis très bien. Après, j'ai un regard assez objectif sur elle, c'est-à-dire que c'était une femme extraordinaire, mais en même temps, elle aimait vraiment tout contrôler. Elle était absolument contrôlante dans son couple et un petit peu dans sa vie. Et ça, même ses amis, sa famille s'entendent à le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait, je me demande si le fait d'avoir rencontré cette femme qui lui laisse peut-être une place d'exister en tant que Chris Watts, en tant que personnalité propre, l'a pas amené à commettre ce meurtre, puisque peut-être a-t-il eu peur, je sais pas, de se dire d'engager une conversation sur le divorce et que Shannon ne le veuille pas. D'ailleurs, elle ne voulait pas divorcer de lui et qu'elle ait une réaction excessive. Alors évidemment, c'est complètement aberrant comme raisonnement, mais je me demande si c'est pas le mécanisme en fait qui l'a amené à assassiner sa femme. Et ce qu'il explique, alors on ne le saura jamais puisque Shannon n'est plus là pour le dire, il explique que Shannon l'a menacé qu'il ne verrait plus ses filles, donc ce qui est complètement stupide puisque ses filles, il les a éliminées aussi par la suite. Donc, à mon avis, je pense qu'il n'a pas... Il n'y a pas eu de réflexion consciente à proprement parler du déroulement des faits. Il y a eu apparemment une dispute qui a été très émotionnelle quand ça s'est passé, donc il a étranglé Shannon au petit matin. Et une fois que le meurtre était commis, il a dû se débarrasser de ses filles, puisque ce qu'il explique, c'est qu'elles étaient elles aussi un obstacle à sa relation avec sa maîtresse. Mais après, lui dit, alors je pense que c'est aussi pour se dédouaner de sa responsabilité, qu'il a eu une espèce de trou noir, qu'il a eu quelque chose qui a pris contrôle de lui sur un laps de temps où il a commis ses meurtres et qu'il n'était absolument plus lui-même et qu'il avait perdu toute conscience de ce qu'il pouvait faire.
Le livre est écrit de façon non linéaire. Comment vous travaillez ça? Comment vous dites je vais écrire de façon non chronologique? Quelles questions vous vous posez quand vous l'écrivez?
Alors, je l'ai écrit effectivement de façon non linéaire et non chronologique. Parce que, alors, moi, à la base, je viens du roman, donc j'aime bien monter l'histoire en une espèce de suspense qui grimpe. Et la façon de faire des chapitres alternés entre le moment, donc je commence le premier chapitre par la disparition de Shannon, où son ami s'inquiète de sa disparition. Et ensuite, je reviens sur la genèse du couple et toute la relation du couple. Et j'essaye de faire monter le suspense en parallèle entre l'étau qui se resserre sur Chris Watts par la police autour de lui lors de l'enquête et l'étau qui se resserre sur Shannon et sur la relation dans une espèce de climax en fait, qui vont se rejoindre vers la fin du livre où le climax, en fait, c'est simplement le crime. Pour après recontinuer sur les audiences, etc., et un petit peu l'explication des meurtres. Mais en fait, c'est pour essayer de monter en tension d'un niveau policier et du niveau personnel. C'est comme ça que je travaille. Souvent, d'ailleurs. Dans mes romans, c'est pas le premier que je monte comme ça.
Est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec Chris Watts?
Oui, beaucoup de fois. J'ai beaucoup cherché. Il répond pas. Il veut pas parler de l'affaire. Il veut plus en parler. Je lui ai écrit 6 ou 7 fois. Et voilà. Il a fait comprendre que il voulait plus parler de l'affaire.
Vous écoutez Culture Prohibée. Que le livre d'Esther Hervy, Dadino, l'affaire Chris Watts, est disponible aux éditions Lithos. Et on va maintenant parler, les amis, évidemment, de tout ce qui a inspiré l'affaire Chris Watts, parce que l'affaire Chris Watts, elle a généré aux États-Unis une série True Crime, elle a généré évidemment plein d'images. En plus, comme l'a dit Esther Hervy, il y a pas mal de choses qu'on peut déjà trouver en ligne. Donc ça a permis à beaucoup de construire des documentaires, des modules autour de cette affaire de Chris Watts. Mais il y a un téléfilm signé Michael Nankin de 2020. Alors, qui est un téléaste connu quand même pour avoir travaillé, avoir mis en scène de bons épisodes de bonnes séries télé. Hein. Je pense à Battlestar Galactica, je pense aussi plus récemment à Dark Queens, l'une des rares séries qui met en vedette un policier natif aux États-Unis et qui est vraiment une série intéressante. Et là, ce téléfilm, alors il a deux titres, soit Chris Watts Confession of a Killer ou The Chris Watts Story. Un téléfilm, Damien, qui dans sa forme, a un petit côté aussi documentaire, enfin en tout cas tend vers une certaine forme de naturalisme pour nous mettre dans cette ambiance quand même assez tétanisante et malsaine qui est celle de l'affaire Chris Watts.
Sa forme est très intelligente et on le voit dès le début du film parce que la phase d'introduction en fait nous montre déjà plusieurs caméras. Elle commence par des images d'un caméscope qui rappelle les vacances en famille. On comprend les vacances de la famille de Chris Watts. On voit ses enfants en train de jouer dans une cour. Puis la caméra suivante, c'est celle d'un journal télévisé qui est en train de l'interviewer où justement il explique que sa famille a disparu et qu'il voudrait bien que la personne qui a fait le kidnapping se manifeste au plus vite parce qu'il veut la récupérer. Ensuite, on enchaîne sur la caméra qui est celle du téléfilm qu'on va suivre durant toute l'histoire, qui est lui dans sa maison vide en train de regarder quelque chose. Et la dernière caméra qui est montrée, c'est une caméra de surveillance dans une salle d'interrogatoire où Christopher va passer au détecteur de mensonges. Donc ça, c'est différents éléments qui sont importants dans le film parce que le film est une fiction, c'est pas un documentaire, mais elle met en avant le fait qu'il existe énormément d'images de preuves enregistrées et que c'est dessus qu'il va s'appuyer en grande partie le film pour raconter ce massacre extrêmement sordide. C'est un film qui va apporter beaucoup d'éléments, notamment qui va mettre en avant sa femme qui est très présente sur les réseaux sociaux et un peu une contrôle fric parce que quand ils sont invités, on a une scène où ils sont au restaurant dans le film où justement elle commande pour lui sans qu'il ait donné son avis sur ce qu'il avait envie de faire. Il y a un autre moment où il prend tous les matins des sortes de compléments alimentaires parce qu'elle lui dit d'en prendre, il fait du sport et lui en fait se retrouve incapable à communiquer ses émotions, sa façon dont il est pris dans ce couple, de ce qu'il a envie de faire et qu'elle est un peu gênante pour lui. Il n'arrive pas à dire ce qui représente finalement un homme d'un couple hétéro avant les années 2010, voire 2020, et encore. Mais il y a un truc qui arrive assez vite dans le film, c'est qu'au moment où il commence son adultère, il rejette énormément la faute sur autrui. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie où notamment il est au détecteur de mensonges, il explique que ça allait mal dans le couple, que c'était elle qui voulait le quitter. Mais le téléfilm nous dit qu'en fait, c'est lui sur l'instant qui découvre cet adultère, découvre la liberté et essaye de s'en sortir comme il peut. Et il va s'en sortir pas bien du tout, de manière assez horrible. C'est un téléfilm avec plusieurs moments qui troublent. Il y a un ou deux moments où on a des regards caméra. C'est, C'est un film qui s'en sort bien, surtout sur ces changements de plan, le fait de passer aux caméras de souvenirs, aux caméras de surveillance, aux caméras du film. Ça nous crée toute une ambiance qui nous plonge dans cette histoire de manière un peu comme le livre, pas linéaire, vu qu'on a des flashbacks. Toute la scène se passe normalement dans la temporalité de cet interrogatoire, mais tout va être mis en flashback pour raconter ce qui s'est passé entre ce que lui va dire et ce que le téléfilm monte sur ce qui est censé s'être déroulé. Donc c'est un téléfilm qui est très malin pour raconter cette histoire, qui sort un peu des reconstitutions, parce que vu que c'est un téléfilm, il a l'espace pour créer, pour remplir des vides et créer des liens émotionnels, même si normalement vous ferez aucun lien émotionnel avec notre tueur.
Oui, Michael Nankin, c'est un vieux routier du petit écran, donc il a effectivement, il tire, j'ai envie de dire, il tire le maximum d'un matériau qui est tout de même assez limité, c'est-à-dire il a ce fait divers. En fait, la problématique de tous ces faits divers, c'est qu'ils sont tellement forts, puissants, ce qu'il raconte est tellement dur et que c'est très compliqué en fait de mettre ça en scène. Donc lui fait un peu le choix de s'effacer. En s'appuyant fort intelligemment sur la profusion d'images qui circulent au sujet de l'affaire, et bon, tu l'as bien dit, hein. Donc, mais bon, il n'en demeure pas moins que je suis que moyennement convaincu, moi, par le téléfilm en question, quand même, parce que je trouve que dans sa c'est un malin, il fait de son mieux, mais pour moi, il n'apporte pas la plus-value qui fait qu'en fait. Un documentaire sur l'affaire ou un true crime ou même lire la lecture du livre d'Esther Harvey s'impose parce que tout cela est beaucoup plus passionnant à mon avis que le téléfilm en soi qui a du mal pour moi à sortir de l'écueil justement de reproduire les images existantes et qui ne l'amènent pas vers un objet de cinéma, j'ai envie de dire. Voilà, il fait de son mieux mais il n'y arrive pas, je pense.
Pourtant, il filme le meurtre de l'épouse. Et là, il fait quelques effets de mise en scène, notamment au niveau de la photographie, avec des effets de lumière que je trouve qui détonnent un peu avec le reste du film, vu que le reste du film est très réaliste, hein, avec les différents supports que Damien a pointés. Et tout d'un coup, là, il fait un effet que je trouve un petit peu maladroit. Mais le film, d'après... Moi, j'ai lu le livre d'Esther Harvey, le film a l'air assez fidèle à l'affaire.
Le téléfilm est quand même assez difficile à voir. On a dû un peu écumer les sites internet pour le trouver. Il faut chercher sur les sites de vidéos à la demande, mais il n'y a pas de sous-titres français. Il n'y a pas de... Voilà, il va falloir faire travailler un peu votre anglais. Moi, j'ai passé de l'anglais à l'allemand. Et vous parlez de La tendresse des loups. La tendresse des loups, c'est un film de Uli Lommel, qui est un film de 73 et qui là ressort dans une copie superbe, hein, chez Carlotta Film, en Blu-ray. Et bon, c'est l'occasion de parler d'un film assez particulier qui évoque une affaire, là aussi, qui a marqué son époque, c'est l'affaire du vampire de Hanovre, alias Fritz Arman, qui a inspiré d'ailleurs aussi, enfin, qui est le personnage qu'on retrouve dans M. le Maudit, par exemple. Ce vampire de Hanovre, là, il est donc incarné par Kurt Rabe, qui a vraiment un physique particulier, avec sa tête ronde, ses cheveux rasés, et qui, comment dire, est quelqu'un qui est, que l'on soupçonnait un peu de revendre un peu la viande de ses victimes, hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi le vampire, de mordre ses victimes pour boire leur sang. Enfin, il y a plein de légendes qui tournent autour de ce monsieur qui surtout tuait des jeunes homosexuels qui n'étaient pas très recherchés par la police dans une époque trouble. Là, le réalisateur Uli Lommel fait le choix d'indiquer à quel point c'est le cadre, justement, la permissivité d'une époque qui a permis que ce Fritz Arman, qui est incarné par un Kurt Rabe très, très étonnant, qui était
un ami de toute la galaxie qui tournait autour de Rainer Werner Fassbinder, on va dire Fassbinder pour aller plus vite, hein, mais de Fassbinder, et qui a un physique très particulier, un visage vraiment inquiétant, et en même temps, il peut avoir des aspects débonnaires, un petit côté suave, un peu pédant, comme ça. Il est très, très, très malaisant, l'acteur, et il campe très bien ce rôle. Cette production donc, de Fassbinder, parce que je viens d'en parler, qu'à la base, il devait réaliser, est signée Uli Lommel. Alors, le film est très troublant parce qu'il est à la fois beau et lugubre. Il est à la fois... Il y a un contraste entre sa belle photographie, sa mise en scène léchée et son aspect sinistre. C'est un film particulièrement sinistre. Ça suinte la misère sociétale, la compromission, la violence sourde, et en fin de compte, la mort, quoi, la mise à mort. Rien ne nous est épargné. C'est à travers ce personnage pervers, c'est la perversion d'une société, ou plutôt d'un microcosme qui nous est décrit, parce que le mal est partout. D'ailleurs, dès lors que le mal devient toléré, accepté, en fait... parce que forcément qu'il y a des gens qui devaient se douter que ce gars-là ait tué des jeunes homosexuels. Mais tout le monde avait intérêt à travailler avec lui. Il servait un peu d'indic pour la police. Il ramenait de la viande pour les gens qui tenaient des échoppes. Il trafiquait de tout, de tout, de tout, de tout. Il trafiquait avec la Légion étrangère. Évidemment, en plus, il tuait des gens, mais il volait, il recelait ce qu'il leur prenait. Enfin, vraiment, un personnage éminemment sympathique, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais en même temps, il y a une compromission générale de la société et une acceptation, en fait, de la violence. Dès lors qu'on se met à accepter la violence, qu'elle devient banale, en quelque sorte, c'est ce que dit le film. Hein. C'est un paradis, déjà, pour des personnes de ce type, hein, pour les prédateurs. Et c'est aussi toute la société, quelque part, qui a une part de responsabilité dans les crimes commis. Et le film est assez saisissant là-dessus. Le film ne recule quand même devant rien. Même s'il ne nous montre pas énormément de choses en termes de violence, c'est aussi l'histoire d'un homme qui refoule son homosexualité. C'est un des thèmes, de toute façon, très Fassbinderien, si j'ose m'exprimer ainsi, qui transparaît, parce qu'en fin de compte, plus que de la violence graphique, ce qu'on voit dans le film, la violence graphique, elle apparaît surtout à la fin, mais ce qu'on voit dans ce film, c'est des corps d'hommes nus, des corps de jeunes hommes nus. C'est plus ça qui va estomaquer le public, le sidérer par moments, ainsi que la compromission globale de ce microcosme, quoi, que les meurtres graphiques qui sont plutôt peu nombreux dans le film. Donc, bon, vous avez compris, c'est pas mignon tout plein. Hein. C'est un film à... Bon, ne le regardez pas si vous avez le moral à zéro. C'est un film de 73, donc ça s'appelle La tendresse des loups. C'est signé Uli Lommel. C'est produit par Fassbinder et c'est disponible chez Carlotta Film.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial faits divers et cinéma. On va terminer l'émission avec un autre film qui avait vraiment impressionné à l'époque. Moi, je me rappelle, en 2006, il est sorti au cinéma en France. J'étais resté assez scotché quand j'avais été voir ça au cinéma. C'est Wolf Creek, qui sort là en UHD, en 4K, chez ESC Éditions. Wolf Creek de Greg McLean, qui est un film très fort de Greg McLean, qui fera des films intéressants après, mais qui ne retrouvera jamais la niaque de ce premier film.
Australie, 1999. Brum. Ben, un surfeur de Sydney, et ses deux jeunes anglaises, Liz et Christy, se rendent en voiture dans le désert d'Australie pour admirer l'immense cratère, Creek Wolf, créé par l'impact d'une météorite il y a plusieurs milliers d'années. Mais au moment de repartir, c'est le drame. Leur voiture est en panne. La nuit tombe. Un homme arrive avec une dépanneuse, afin de les aider et de les remorquer jusqu'à chez lui. Mais une fois sur place, leur vie bascule à jamais. Cette histoire, c'est celle de trois jeunes personnes tombées entre les mains d'un psychopathe sadique. Voici leur histoire. Wolf Creek, donc, de Craig McLean, c'est un film qui commence un peu comme un simple road movie, un teen movie. C'est des jeunes qui partent en vacances. Ils sont là pour s'amuser. On sent qu'il y a une petite histoire d'amour qui se crée entre les trois. Et au moment où cette dépanneuse surgit au milieu de la nuit, l'atmosphère est un peu haute. Déjà, le personnage fait des blagues. Il essaye d'être amical, ce dépanneur, mais c'est assez bizarre. Bon, il est quand même très sympathique. Et en fait, c'est après qu'il les ait ramenés chez lui, après qu'ils aient passé la première nuit, que en fait, vraiment tout bascule. Et ça se passe de manière que je trouve super intelligente, qui est qu'ils s'endorment. Et en fait, au moment du réveil, on a la vue de l'un des personnages qui est enfermé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé cette nuit-là. L'autre indice qu'on a, c'est qu'elle arrive à s'échapper. Elle trouve un sac de couchage rempli de sang. Et on sait qu'il y a une horreur qui est arrivée durant la nuit. Mais là où le film est fort, c'est qu'en fait, la véritable horreur n'a pas encore commencé. Et à partir de ce moment-là, le film va juste devenir de plus en plus horrifique. La situation va dégénérer au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je regardais le film, j'avais un peu l'impression d'avoir un anti-Memory of Murder. C'est-à-dire que tout le film se passe des points de vue des victimes. Memory of Murder, ça se rapproche plus des faits réels et ça s'inspire du côté de la police. Mais là, on se retrouve du côté des victimes qui met en avant les différents horreurs qu'elles vont subir. Et à chaque fois qu'on pense qu'elles arrivent à s'échapper ou avoir une chance de partir, ben, ce qui arrive derrière est encore plus atroce. Et le film continue comme ça très longuement. Et c'est un film qui arrive vraiment à avoir une sensation très glauque et pas suave, parce qu'on ressent qu'il y a le désert quand même autour, mais qui, en dépit de l'énorme espace qu'est le désert australien, arrive à enfermer ses personnages dans ce qui leur arrive, dans ces drames, dans cette épouvante, dans cette violence, avec un petit côté sans échappatoire au final.
Oui, Damien, tu dis qu'il est sympa, etc. Mais moi, je tombe sur un mec comme ça la nuit, je suis pas rassuré. Un mec qui a une gouaille comme ça, qui... Moi, je trouve malsain. Dès le début, je trouve bizarre, malsain. Enfin, je pense que la mise en scène fait ça aussi, mais des types comme ça, je rencontre comme ça, moi, je me méfie. Effectivement, il y a ce côté de claustrophobique, parce qu'en plus, la nuit est quand même assez épaisse. C'est très noir, la photographie est très sombre. Il y a cette idée que ça se répète, qu'il n'y a plus moyen de s'en sortir. Lui, il est partout. On dirait qu'il a un don d'ubiquité incroyable. Et c'est aussi la façon de filmer, la façon de mettre en scène qui est très sèche. Il fait pas, enfin, c'est filmé à l'épaule généralement. Mais il fait pas d'affêterie. C'est pas spectaculaire. C'est très sec, c'est très âpre. Et la façon dont il montre les sévices, c'est quand même assez dur, quoi. On suit un personnage féminin en particulier pendant une bonne partie du film, et quand même, il la ménage pas beaucoup, quoi. Et il y a aussi cette façon de gérer les points de vue qui est quand même assez forte.
il y a quand même, au niveau de la façon, de la façon dont il mène la narration, il est quand même assez balèze de passer d'un personnage comme ça, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'échappatoire, que personne ne va en sortir. Bon, il y a quand même un personnage qui s'en sort, bon gré mal gré, mais c'est un film quand même assez nihiliste.
C'est le meilleur film de Greg McLean. Hein. Nous, on l'a découvert avec ce long métrage, qui est son premier long métrage, en vérité, Wolf Creek. Et après, il fera Solitaire, qui est pas mal du tout, qui est un film de croco, quoi, voilà, bien sympathique. Hein. Et il enchaînera sur un Wolf Creek 2 qui sera quand même, bon, moins bien, on est plus dans la farce, c'est-à-dire qu'on est... Ça reste horrifique, hein, mais on ne retrouve pas un peu cette rage qui anime ce film, qui a des aspects... qui a un aspect presque viscéral et qui a un aspect presque fantastique, parce que ce personnage, c'est le mal, en fait. Je le trouve tellement inquiétant, presque surnaturel. Et il a une aura totalement, totalement effrayante. Il semblerait que c'est annoncé depuis quelque temps en Wolf Creek 3. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Et à signaler, il a fait quelques films, mais il a fait aussi un jungle assez sympathique avec Daniel Radcliffe qui est assez dégueu aussi quand le réalisateur se met à décrire ce périple dans la jungle bolivienne qui se passe pas forcément super bien. Je rappelle que Wolf Creek de Greg McLean est disponible chez ESC Édition en UHD. Seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Domédy, la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Mon espace.